Jacques Verlinde, vous êtes scientifique, mais vous êtes actuellement enseignant à la Faculté théologique de Lyon. Et vous avez eu un parcours un peu spécial, puisque votre recherche de Dieu vous a conduit vers des philosophies religieuses d'Orient, notamment aux Indes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre itinéraire ?
Au départ, je suis un enfant heureux d'être chrétien. J'ai été éduqué dans une famille chrétienne, pratiquante. Et mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs les plus riches, les plus chaleureux, les plus intenses, je crois que ce sont des souvenirs d'une présence au Seigneur. J'étais enfant de cœur, comme on disait dans le temps, et je me souviens des moments que j'ai vécus en servant la messe, le matin à 6 heures. C'était une joie pour moi de partir, alors qu'il faisait encore noir, retrouver le Seigneur. Et je crois que ça m'a marqué, et si je commence par cet événement-là, cette rencontre avec Dieu dans l'Eucharistie, c'est parce qu'il me semble que tout au long de mon cheminement, ce fut chaque fois Jésus-Eucharistie qui m'a rappelé à lui. Alors, après une jeunesse vécue d'une façon très classique...
Une adolescence classique ?
Une adolescence classique au sens où une adolescence avec des problèmes d'ajustement dans ma relation à Dieu. Et vous faites bien le souligner, c'est sans doute là que les choses ont commencé. Le passage, pas toujours facile, d'une religion infantile, ou plutôt une religion d'enfant, parce qu'infantile serait péjoratif, une religion d'enfant à une appropriation d'adulte. Passage qui n'est pas facile, car je me souviens fort bien que pour moi, cela passait par la confrontation au Dieu Père, à l'autre, à son exigence, une exigence qui devait se répercuter en moi dans une maîtrise de cette nouvelle dimension de mon être qui apparaît au moment de la puberté. Et je me souviens que ce n'était pas facile. J'ai vécu là un combat très fort entre le Dieu de tendresse que j'avais connu et puis cette nouvelle image sur laquelle se superposaient des peurs. Ce que Freud appellerait le Dieu castrateur, le Dieu vengeur, le Dieu étouffant. Je me souviens d'une attitude qu'un jour je me suis surprise à avoir et qui tient bien ce combat intérieur. Je revenais de l'école et je ne pouvais pas ne pas rentrer dans l'église. Mais je me tenais au fond de l'église, derrière un pilier, pour, je dirais, contempler, garder le contact avec ce Seigneur Eucharistie tout au fond de l'église, mais devant lequel je n'osais plus paraître à découvert. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'aider à franchir ce pas difficile, où je me débattais tout seul. Et puis et là, je n'ai pas rencontré, à ce moment-là, le guide spirituel, ou l'accompagnateur ou le père qui aurait pu me permettre de franchir, d'intégrer, disons, ma foi dans cette nouvelle dimension de mon être humain. Et sans doute, c'est le point de départ d'un questionnement vers d'autres horizons moins culpabilisants.
Et notamment la science.
Pas directement. Disons que cela, à ce moment-là, se faisait un peu indépendamment de mon cursus de scientifique. Il est vrai que les circonstances ont fait que je me suis retrouvé, je n'avais pas 16 ans lorsque je suis rentré à l'université, j'étais très jeune, trop jeune, trop jeune. Et je me suis retrouvé, commençant une thèse, j'avais pas 21 ans, donc me plongeant dans la recherche scientifique, une thèse en chimie nucléaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai été confronté, sans le savoir, à tous les courants philosophiques de l'époque. Nous approchons de mai 68. Il y avait en même temps des courants philosophiques de type structuraliste, qui sont quand même assez réductionnistes quant à l'image de Dieu et même à la réalité profonde de l'homme. Il y a aussi tous ces courants post-nietzschéens de mise en cause des valeurs et plus radicalement de mise en cause du fondement des valeurs, à savoir Dieu.
Mise en cause totale et complète de tout ce qui pouvait paraître être stable et fondateur d'une société, d'une personnalité, d'une foi, d'une religion.
Voilà. Mais ça, c'était ça, la façon dont vous l'exprimez, est une position déjà philosophique que je n'avais pas. Étant donné que j'étais formé dans un contexte scientifique, avec une formation philosophique quasi nulle, et c'est sans doute le danger d'une telle formation, c'est que le scientifique qui ignore la philosophie fait de la philosophie sans le savoir. Mais une philosophie le plus souvent scientiste, et donc avec une épistémologie scientifique qui envahit tous les domaines de la connaissance. Tout est évalué à l'aune de la pensée de l'épistémologie scientifique. On est dans une sorte de positivisme. Et j'ai été confronté à toutes ces pensées philosophiques sans vraiment me rendre compte de ce que signifiait une pensée philosophique, c'est-à-dire d'une façon acritique. J'ai lu des ouvrages que je trouvais intéressants, mais qui appartenaient à un courant philosophique que je n'identifiais pas. Il me semblait que c'était la pensée humaine, et qui m'a conduit progressivement à cette sorte d'exigence de lâcher la béquille religieuse pour vivre une vie libre, digne de l'homme. Un courant qui était présent à cette époque-là. Et je me souviens fort bien le jour de la rupture, où j'étais à la maison auprès de mes parents, qui m'ont invité à les accompagner à l'Eucharistie du dimanche.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 22 ans. Oui, je faisais de la recherche scientifique et j'avais du temps disponible pour une pensée. J'étais plus poussé par les examens à ce rendement au niveau d'un rythme universitaire, et je m'étais orienté intellectuellement vers ces domaines-là. Et à ce moment-là, je me suis trouvé devant un choix. Et je me souviens, je me vois encore faire le choix de dire à mes parents, calmement mais fermement, non, je crois que je vous accompagne pas. Et je me souviens, je me suis réfugié dans ma chambre, j'avoue, pour pleurer, car pour moi c'était une vraie rupture, parce que j'avais une vraie relation avec le Seigneur, et rompre cette relation pour vivre une vie humaine pleine, totale, était une exigence très lourde pour moi. Mais il y a eu là un choix fondamental, il y a un avant et un après. Et je me souviens, les mois et puis les années qui ont suivi, j'ai immédiatement senti que j'avais éliminé une dimension de ma vie qui restait là comme une béance. Je me retrouvais seul. Et j'en ai encore le goût aujourd'hui quand j'en parle, je me retrouvais seul. Mais il me semblait que cette solitude était comme l'abîme sur lequel il me fallait oser avancer enfin seul dans la vie. Une sorte de défi, mais la qualité de ma vie dépendait de la force que j'aurais à relever ce défi.
Donc vous avez cherché à sortir de cette solitude.
J'ai essayé d'assumer cette solitude, puisque selon ces philosophies, mais encore que je ne reconnaissais pas en tant que telle, la solitude était la condition existentielle de l'homme. Après, je me suis rendu compte que j'étais dans tout un courant aussi existentialiste, un peu athée, sans le savoir, l'homme jeté dans la vie, jeté vers la mort, dans une condition qui est absurde, mais qu'il doit avoir le courage d'assumer jusqu'au bout. C'était mon attitude existentielle, mais que je ne formulais pas du tout dans ces termes-là. Et j'ai essayé de remplir cette existence à travers, disons, d'habiter mon idéal. Et j'ai essayé d'abord de l'habiter dans un contexte scientifique, puisque c'était le premier qui se présentait à moi, et sans doute, par nature, je me semble que je suis un être passionné, et je n'avais pas attendu ces démarches-là pour me jeter à corps perdu, je dirais, dans la démarche scientifique. Mais je m'y suis donné totalement. Il y a quelque chose de fascinant dans cette recherche de l'intelligibilité de l'univers, et j'ai cru pouvoir remplir ma vie avec ça. Seulement, je me suis rendu compte que si cela remplissait, je dirais au niveau du temps, ça remplissait pleinement ma vie, ce vide restait là de plus en plus criant. Et j'ai essayé de le remplir, ce vide, par une recherche dans des domaines plus humanitaires. Là, nous sommes en plein mai 68, dans toutes les utopies de ce grand mouvement contestataire des autorités, de toute forme d'autorité, qu'elle soit politique, sociale ou même dans l'ordre de la pensée. Et je me suis mêlé à tous ces mouvements d'étudiants qui essayaient de reconstruire la société. Par exemple, j'ai fait du théâtre de rue avec les trotskistes. Nous avons essayé d'aller au-devant des détresses de l'époque, qu'elles soient physiques ou d'un autre ordre. Mais dans toutes ces démarches-là aussi, la question qu'il me revenait sans cesse, c'était, je ne le formulais pas ainsi, mais quel est le fondement de ce que nous faisons ? Nous agissons au nom de l'homme, mais qui est cet homme que nous voulons libérer, que nous voulons émanciper ? Quel projet anthropologique y a-t-il derrière tout cela ? Encore une fois, ces mots-là n'étaient pas mon vocabulaire, mais c'était la question que je me posais. Au fond, c'était la question du sens. Qui est l'homme ? Et pour savoir qui est l'homme, pour savoir quel projet proposer à ma vie, il me semblait qu'il fallait que je sache d'où je viens, qui me jette dans cette existence, pour que je puisse construire un projet, puisse orienter ma vie. Et dans tout ce que je faisais, je ne trouvais ni une réponse à la question des origines, ni une question à la question d'un sens, d'un idéal, enfin d'une orientation à donner. Et je reconnais que sous un aspect extérieur très aisé, j'avais une vie qu'on pouvait m'envier, puisque entre-temps j'étais devenu assistant, j'étais enseignant à l'université, participé à la vie du laboratoire, une vie passionnante, très libre, libre de toute attache, pouvant faire du sport, de la musique, du théâtre, tout ce qu'on peut rêver faire à cet âge-là. Je reconnais que dans le fond, j'étais profondément malheureux. J'ai même honte d'oser dire que j'étais malheureux avec une vie aussi réussie que celle que j'avais.
Alors comment avez-vous fait cette rencontre avec les philosophies religieuses orientales ?
C'est précisément à ce moment. Là aussi, je me souviens, c'est curieux, mais il y a des flashs, des moments très intenses, je me souviens que descendant un escalier dans une rue piétonne, je me suis vu face à face avec une affiche, la méditation transcendantale, avec la grande image du fameux gourou. Et je me suis arrêté au milieu de la foule, et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Somme toute, c'est ces dimensions-là de ta vie que tu as évacuées, ces dimensions d'intériorité. Tu as essayé sur tant de chemins, pourquoi ne pas reprendre ce chemin-là pour voir s'il y avait une possibilité. Et il y avait sous l'affiche une adresse, avec un jour de rencontre, j'y suis allé. En fait, il fallait suivre une série de conférences introductives. J'ai à peine écouté parce que le Bharata ne m'intéressait pas. Ce que je cherchais, c'était une technique qui me donnerait de nouveau accès à ce chemin intérieur. Alors on m'a dit augmentation du quotient intellectuel, relaxation. Je me suis dit en moi-même, attendons que ça passe, et venons-en à la technique. Et effectivement, je me suis présenté à cette initiation. Peut-être que nous reviendrons sur les circonstances, car il s'agit d'une véritable initiation, la puja, la cérémonie religieuse que l'initiateur prononçait en sanskrit, à la place de l'initié, en essayant de démystifier un peu, en disant, vous savez, ça n'a aucune importance, ça n'est qu'un rituel, en fait c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraissait, au terme duquel on reçoit un mantra. J'ai donc utilisé ce mantra de la façon dont on me l'a dit, et dans l'état de réceptivité où j'étais, il n'y a rien d'étonnant qu'immédiatement j'ai plongé. J'ai plongé, j'ai fait une profonde expérience qui m'a renvoyé vers ces dimensions que j'essayais de rejeter. Et je me souviens que dans cette méditation, dans cette initiation, immédiatement je me suis dit, ces dimensions-là, garçon, elle est tellement essentielle à ta vie que non seulement il est vain de l'évacuer, mais il est probable qu'elle fera l'orientation, le sillon de ta vie, il sera là.
Et qu'est-ce qui vous a permis que vous puissiez être touché à ce point-là par cette méditation transcendantale, comme vous dites ?
Je crois que c'était l'attente. C'était ces deux bonnes années d'errance dans l'extériorité, loin de cette vie intérieure qui avait fait toute la richesse, toute la qualité de ces 22 premières années de ma vie. Et c'est cette soif de retrouver ce monde intérieur qui fait qu'immédiatement j'ai plongé. Mais j'aurais probablement plongé avec autre chose. Et si à ce moment-là on m'avait reparlé de Jésus, et si on m'avait invité sur les chemins de l'intériorité dans une démarche d'authentique spiritualité chrétienne, probablement j'aurais eu la même réceptivité.
Mais là n'était pas votre chemin.
N'était pas mon chemin, je n'ai pas rencontré, et moi-même je n'y ai pas pensé. Honnêtement, la rupture était faite. Et je n'ai même pas, ça n'a pas traversé mon idée de me retourner, de m'adresser à cette religion chrétienne. J'avais épousé les vues de l'époque. C'était dans l'air du temps, une religion dépassée.
Donc vous êtes allé une première fois à cette conférence à laquelle vous avez été invité par une affiche. Et comment êtes-vous rentré ensuite progressivement dans ce chemin d'intériorité ?
Je me suis donc fait initier. L'expérience d'initiation était pour moi très forte. Il y a un service après-vente de quelques rencontres, puis on vous invite à vous retrouver une fois par semaine pour faire le point sur cette expérience de méditation. Normalement, il fallait méditer 2 fois 20 minutes par jour. Très vite, je suis passé à une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour. Je me levais la nuit pour continuer à reprendre cette méditation, cette technique. Ce qui m'intéressait, c'est cette expérience qui était proposée. L'ennui, c'est que très vite, cette expérience m'a déconnecté du réel, au point que j'avais beaucoup de mal d'assumer durant la journée mon devoir d'État, mon travail à l'université, aussi bien l'enseignement que le travail en laboratoire. J'avais beaucoup de peine. J'étais dans une sorte de monde second, et je me souviens que je commençais à essayer de me protéger des agressions extérieures de tout type, le bruit, les odeurs en laboratoire, et finalement le contact immédiat avec l'autre. J'avais beaucoup de mal à soutenir une conversation un peu longue. Et très inquiet, je m'enfermais de plus en plus dans mon bureau, jusqu'au beau jour où j'ai eu du mal à m'exprimer, à parler, et où je suis tombé dans un mutisme. Alors mon patron, mais l'expression n'est pas belle, disons, le professeur responsable du laboratoire, avec qui j'avais une très très bonne relation, est venu me voir très étonné. Il a senti que je vivais quelque chose de difficile, de bouleversant, et il m'a proposé de prendre un peu de recul, un peu de repos. Et j'ai pris ce temps de repos qu'il m'a très gentiment proposé pour aller voir ce fameux gourou. Alors, pour essayer de creuser un peu ce qui m'arrivait. Le problème, c'est que ce gourou m'a pris en affection, que fasciné, je me suis lié à la personnalité très, très envoûtante de ces gourous hindous. D'autant plus qu'il me semblait que ses réponses étaient une invitation à aller plus loin. Pour lui, tout cela, tous ces phénomènes que j'avais n'étaient rien d'autre que de l'unstressing, puisque tout se passait en anglais, c'est-à-dire des décharges de tension du passé que la méditation avait libéré. Une sorte de méditation m'aurait mis dans un état de profonde paix intérieure, de sérénité, j'aime bien pour le mot sérénité, il fait que tous les petits ressorts tendus de mon passé se détendaient, dans une sorte de phénomène qui psychique, physique, et tout ça, psychosomatique, disons, un peu désagréable, mais il suffisait d'aller plus loin dans l'expérience pour que tout ça se résorbe et tout ça soit guéri intérieurement.
Et vous êtes allé plus loin dans l'expérience.
Et donc je me suis enfoncé de plus en plus. Enfin, enfoncé, c'est déjà une évaluation, mais j'ai poussé beaucoup plus loin l'expérience. J'ai commencé des roundings, comme on dit, c'est-à-dire des périodes de longues, longues méditations où, alors là, on médite pendant pratiquement jour et nuit. Et là, à la sortie de cette première étape, il m'a enseigné les techniques d'initiation, je suis devenu donc un initiateur de la méditation. Je suis revenu en Europe pour un certain temps, où j'ai ouvert un centre et j'ai moi-même fonctionné comme initiateur, en étant toujours en même temps à l'université. Pendant la journée, je faisais mon métier de chercheur et d'enseignant. Et le soir et la nuit, j'enseignais la méditation transcendantale. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car je menais une double vie. Et c'est à ce moment-là, entendez bien que nous sommes dans le contexte de mai 68, c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré le mouvement de Timothy Leary, qui était la découverte de l'LSD. J'étais particulièrement bien placé pour rencontrer ces mouvements, étant donné d'abord de mon travail dans le domaine chimique, et puis que comme thèse d'appui de mon temps, lorsqu'on faisait une thèse état, donc on devait faire une thèse principale et une thèse secondaire d'appui. Et je l'avais fait, parce que ce domaine m'intéressait, dans le domaine des neurosciences. Entre autres, dans la transmission des impulsions dans les synapses du système nerveux, qui est justement le lieu où agissent toutes ces molécules comme LSD et compagnie. Et Timothy Leary avait découvert les propriétés psychédéliques à partir de ses travaux dans ce domaine-là. Donc j'avais rencontré ses travaux, j'avais entendu ce qui se passait dans le contexte de la prise de LSD. Entre-temps, j'avais commencé à avoir contact avec les textes de l'Orient, j'avais ma propre expérience, il me semblait qu'il y avait une convergence. Et j'ai pris à ce moment-là des drogues hallucinogènes, mais dans ce contexte particulier que propose Timothy Leary, c'est-à-dire une sorte de chemin initiatique sur les voies du Bardotodol, du livre des morts des Tibétains, du livre des morts égyptiens. Et donc l'LSD serait une aide pour rentrer dans cette démarche initiatique, dans cette expérience proposée dans ces livres des traditions orientales. Et c'est ainsi que j'ai pu faire quelques expériences dans ce domaine-là. Tout cela rassemblé, vous devinez bien que ces doubles vies ne pouvaient pas durer longtemps, et j'ai finalement choisi de faire l'option radicale de l'Orient, en quelque sorte, de pousser jusqu'au bout cette expérience commencée avec la méditation transcendantale et d'essayer de voir jusqu'où pouvait conduire une telle technique et jusqu'où l'homme pouvait s'engager dans ce chemin d'intériorité sur les voies de l'Orient. Alors, j'hésite un peu dans ce que je dis, car pour aller jusqu'au bout, je me souviens que pour moi, ce choix, c'était choisir Dieu. car il était clair pour moi, d'après les expériences que j'avais faites, qu'au bout de ce chemin d'intériorité, c'était bien vers Dieu que je retournais.
Vers le divin.
Vers le divin. À ce moment-là, je l'aurais appelé Dieu, puisque ce concept qui avait été évacué par les philosophies que j'avais rencontrées à 20 ans, ce concept était ressurgi dans ma vie. Il me semblait que vouloir l'évacuer au nom d'une certaine image de l'homme était vain. J'avais essayé, ce n'est pas cela qui m'aurait épanoui, qui m'aurait accompli. Donc le choix que j'avais fait, c'était choisir Dieu, qu'après va se révéler comme moi, comme un divin, mais choisir de trouver la vérité profonde de mon être sur ce chemin de l'au-delà vers la transcendance. C'est plutôt le mot transcendance, je dirais. Que la vérité de moi-même, je la trouverai en allant au-delà, transcendré, sur ce chemin qui se présentait là devant moi. Et comme c'était celui de l'Orient qui se présentait devant moi, un beau jour je me suis dit, il faut choisir, et puisque tu choisis ce chemin-là, il faut y aller au bout. Et j'ai donc donné ma démission au niveau de la démarche scientifique. Là encore, je me souviens de toutes les longues discussions que j'ai eues avec le professeur qui était donc responsable du centre de recherche, qui a longuement essayé de me raisonner, mais donc je suis parti vers l'Orient, le choix était là. J'ai été rejoindre ce gourou, qui a accepté, après quelques mois où je vivais dans son entourage, qui m'a accepté ma demande de devenir brahmacharya, qui est au fond un ordre monastique. Il y a deux grands ordres monastiques en Inde. Il y a ceux, les sannyasis, qui sont en rouge safran, et puis les brahmacharya en blanc. Il a donc accepté cette démarche, et puis il m'a choisi comme disciple. Alors que veut dire le disciple? Ils sont tous un peu disciples, mais il choisit un disciple
un
plus proche, voilà, qui est plus proche de lui, qui a, pour le situer géographiquement, la chambre à côté de lui, quoi, qui le connaît, qui est le premier qu'il voit et qui est le dernier le soir, le premier le matin et le soir, qui l'accompagne dans tous ses déplacements, qui s'occupe de toute sa vie personnelle, donc qui est le plus proche, qui prend les notes, qui l'écoute. Et le chemin sur lequel je me suis donc engagé, c'était le chemin du Bhakti Yoga, ce yoga de la dévotion, qui est une forme particulière. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le Bhakti Yoga est un des quatre grands, yoga de la connaissance, yoga de l'agir, etc. Et il y a le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, qui est une forme de relation particulière avec le gourou, qui n'exclut pas du tout les formes de Hatha Yoga et toutes les autres dont nous aurons à parler. Mais ce qui explique que ce lien très fort avec le gourou, et qui a continué donc lorsqu'il est parti aux Indes, et c'est ainsi qu'il m'a introduit dans les ashrams du haut Himalaya, où lui-même avait été formé. Et c'est là que j'ai pu, dans ces ashrams, vivre aussi la partie pratique, ce que nous appelons le yoga en Europe. Enfin, le yoga, en fait, le yoga est un ensemble d'écrits que l'on attribue à Patanjali, là aussi quelques siècles avant Jésus-Christ. C'est un auteur très important de la tradition hindoue, qui a rassemblé dans cet ouvrage les grandes voies, les grandes techniques pour conduire l'adepte à l'expérience de ce divin. Ce qu'on appelle yoga chez nous est souvent réduit au hatha yoga, c'est-à-dire un ensemble de postures corporelles auxquelles il faut associer, pour être plus complet. Donc le yoga se développe en sept grandes étapes. Il y a des étapes qui sont plutôt de l'ordre d'un comportement moral, puis des étapes de l'ordre d'une hygiène intérieure. Ensuite, il y a les étapes de maîtrise du corps par certaines postures, le fameux Hatha Yoga, auquel il faut associer une maîtrise du souffle, le pranayama, et enfin les trois grandes étapes de concentration mentale qui conduisent au dhyana et au samadhi, cette expérience unitive avec le divin personnel, avec l'acte d'être commun à tout ce qui existe. Alors, c'est là que j'ai donc vécu très intensément ces longues périodes de méditation accompagnées de jeûnes, et on médite pendant 20 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, puis 2 heures, et on entrecoupe les temps de méditation par des temps de hatha yoga, du corps, et puis par de très intenses pranayama. Tout cela pour arriver à canaliser cette énergie cosmique sur laquelle l'homme serait branché, entre guillemets, par la base de la colonne vertébrale, par laquelle il aspire cette énergie du kundalini, c'est le nom technique pour cette énergie cosmique considérée comme divine. Et tout le but des exercices, qu'ils soient physiques, respiratoires ou mentaux, c'est de conduire cette énergie cosmique par des canaux situés le long de la colonne vertébrale, je dirais, c'est une façon de parler, situés morphologiquement, par deux canaux, Inda et Pingala, et le canal central est la Shushuma, conduire cette énergie jusqu'au sommet du crâne. Et le long de ce parcours, cette énergie ouvre sept centres énergétiques, qu'on appelle les chakras. En fait, il y en a beaucoup plus, mais sept principaux. Et ainsi, progressivement, l'adepte ouvre ses chakras, aspire toujours davantage cette énergie vers le chakra coronaire, vers le chakra du sommet du crâne, et à ce moment-là, il vit cette expérience d'une sorte d'éclatement de la conscience, d'un dépassement de la conscience personnelle, et d'une fusion dans le grand tout, qu'on pourrait dire une identification avec le soi impersonnel, cosmique, considéré comme divin.
Alors à ce moment-là, donc après des nuits de jeûne, de prière, de relaxation, il y a eu quelque chose qui s'est passé?
Oui, en principe, j'avais coupé les ponts. En tout, j'ai vécu, disons, 4 années dans le contexte, pas en permanence, mais dans le contexte de ces traditions hindoues, avec des longs séjours dans ces ashrams himalayens, et puis dans d'autres endroits, Badrinath et d'autres centres spirituels, où j'accompagnais ce gourou. 4 années durant lesquelles mon option s'était toujours affermie. Pour moi, il n'y avait pas de retour. C'était en poussant toujours plus loin ce chemin, en vivant toujours davantage cette fusion avec cet absolu impersonnel, que j'accomplissais mon karma, ce qu'il m'était donné de vivre durant cette existence, puisque j'étais rentré dans cette dynamique des réincarnations. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucune raison d'en sortir. Alors, je pressens dans votre question, on la demande comment justement je me retrouve ensuite sur retourner en Occident. Je dois dire que là, c'est vraiment l'irruption du Seigneur Jésus dans ma vie. Je peux difficilement l'exprimer autrement. Les circonstances ne sont pas indifférentes. Le gourou s'était rendu compte que dans son entourage, et particulièrement dans l'entourage occidental, ceux qui pratiquaient de longues méditations avaient des problèmes de santé. Il y avait une sorte de vieillissement précoce, prématuré, qui était quand même un peu inquiétant. Il avait fait venir différents médecins, d'un peu partout, des États-Unis, d'Allemagne, je me souviens, de Suisse, qui avaient tous fait un diagnostic convergent, ce que je viens de dire, vieillissement précoce. Très étonnant. Un de ces personnages, qui n'était d'ailleurs pas médecin, étant donné la limite des possibilités des médecins, le gourou a fait venir aussi des guérisseurs. Un de ces guérisseurs se référait au christianisme. Et alors que j'étais à milieu de penser encore au Christ, c'est un de ces guérisseurs qui m'a reparlé du Christ. Je vous dis un petit peu les circonstances quand même de à quel point on peut être lié à un gourou. J'en étais au point de pouvoir deviner, sans que le gourou m'appelle, je savais quand il avait faim, quand il avait soif, et ce qu'il désirait. Voilà, c'est une sorte de chemin de fusion avec le gourou pour arriver au divin. Je dis ce détail pour bien dire que le lien était déjà très fort. Et c'est dans ce contexte-là, là aussi je me souviens, mais comment l'oublier, le moment où ce Français, car il était Français, ce guérisseur français, m'a simplement posé la question, mais vous avez une éducation chrétienne, Jésus, qui est-il devenu pour vous? Alors il ne m'a pas parlé du Christ ou de ma religion, il m'a simplement dit Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie de complètement bouleversant, c'est ce nom de Jésus qui a fait écho, qui a réveillé une résonance en moi. Et c'est comme si ce nom est allé creuser au fond de moi et m'a donné accès à une dimension de mon être, à un lieu de moi-même, que j'avais complètement clôturé, que j'avais complètement oublié. C'est difficile de parler de ces expériences, car ce n'est pas que j'ai eu une révélation, quelque chose comme ça. J'essaie de traduire en mots ce que j'ai vécu existentiellement et qui a complètement changé de ma vie. Et je veux dire, c'est encore, je pourrais dire que je vis encore d'une certaine façon cette expérience. Il me semble que j'ai pu prendre conscience de la présence de Jésus à travers l'évocation de son nom. Cette évocation m'a conduit jusqu'à cette présence intérieure. Et j'ai pris conscience qu'il ne m'avait jamais abandonné, alors que moi je l'avais complètement quitté et j'étais parti loin de lui, qu'il était toujours là. Et je traduirais cette présence par les mots, par ces mots-ci, « Combien de temps vas-tu encore me faire attendre ?» J'ai eu une sensation, j'aime pas le mot sensation, un sentiment de sa présence infiniment aimante et infiniment respectueuse de ma démarche, de mon cheminement, mais en même temps infiniment, je dirais, douloureuse de compassion. La tendresse de Dieu qui se penchait sur moi et qui était prête à attendre jusqu'à la fin des temps que je daigne me tourner vers lui. Car si j'osais le situer localement, il se tenait respectueusement derrière moi à attendre que je veuille bien me retourner. C'est comme si j'ai compris là ce que signifiait le mot conversion. Je n'ai pas un seul moment une impression d'un regard qui me juge ou qui me condamne. Simplement une invitation du fond de cette miséricorde. Combien de temps vas-tu me faire attendre?
Et alors combien de temps l'avez-vous fait attendre?
Très peu au sens où dans cet instant quand même bouleversant où j'ai compris ce que voulait dire choup en hébreu qui est bouleversement, car c'est vrai que j'étais mis sans dessus dessous. Je ne comprenais plus rien. Je dis, mais Seigneur, mais je te cherchais, c'est toi que je cherchais, c'est toi que je voulais. Je me souviens vraiment, j'irais dans mes tripes, le sentiment de confusion, de me dire, mais c'est pas possible, je te cherche et tu me fais découvrir dans cet instant que ce n'est pas là que je te trouverai. Et puis, je dis, ça n'a pas duré au sens où j'ai senti avec la même vigueur, le Seigneur m'a laissé un temps dans cette confusion qui n'était pas du tout culpabilisante, qui était en même temps une joie de retrouver ce que je cherchais si proche, et puis en même temps, il a arrêté ce sentiment avec une fermeté, que là non plus je ne suis pas prêt d'oublier, m'a fait comprendre que je savais maintenant ce qui me restait à faire, qu'il fallait assumer la suite, qu'il fallait prendre la responsabilité de mon cheminement, comme j'avais pris la responsabilité jusque-là, qu'il me fallait maintenant intégrer cette rencontre dans une nouvelle dimension de responsabilité.
Alors comment est-ce que ça s'est passé?
Alors ça s'est passé qu'en sortant de cette expérience, mon premier réflexe a été, pourvu que tout ça, je l'oublie vite. Le soir, je me suis mis au lit, c'est pourvu que demain, j'ai tout oublié. Le lendemain, je n'avais rien oublié, et en me réveillant, cette même évidence, cette force intérieure, tu sais ce qui te reste à faire, m'habitait encore toujours aussi fortement. Alors j'ai réussi, je crois que le Seigneur y a mis du sien, j'ai réussi à quitter le gourou dans les 24 heures, ce qui est assez extraordinaire. Il y a eu un concours de circonstances, on ne quitte pas un ashram comme ça, aussi vite, mais bon, je ne vais pas m'appesantir sur les détails, mais il s'est fait qu'une voiture quittait dans les heures qui venaient, que le gourou a permis, que j'ai réussi à prendre un billet d'avion sans réservation ni rien dans les heures qui venaient, et je me suis retrouvé en Europe, avec comme ça un bagage, une petite valise, et plus rien. À reconstruire une vie, j'avais brûlé tous mes vaisseaux. Il me fallait recommencer, je n'avais que cette rencontre avec le Seigneur qui m'habitait pleinement. Et toute une vie à essayer de continuer, car pour moi c'était bien cela. Je me rappelle, après cette expérience, je me suis dit, il y va de l'authenticité de ton choix. Tu as jeté toute ta vie dans cette recherche de Dieu. Si tu restes ici après la rencontre que tu as faite, tu es occupé à récupérer parce que tu n'as pas le courage de continuer l'étape. Et pour moi, c'était la suite dans un nouvel horizon sur la base de cette rencontre que le Seigneur m'avait gratifié de cette rencontre pour me réorienter. Il me fallait dans la confiance marcher dans cette certitude que celui qui était venu me chercher dans les Himalayas savait où il me conduisait.
Alors comment, quelle était la suite de votre histoire une fois que vous êtes arrivé en Europe, en France?
Oui, alors on pourrait espérer que tout est bien qui finit bien et que le fils prodigue rentre dans la maison du Père, dans l'église qui l'attend, la grande réconciliation, amen, alléluia. Ce n'est hélas pas si simple. Car le jeune homme qui revenait, après une longue coupure...
Il avait 30 ans, ce jeune homme.
Il avait 28 ans, oui, à peu près. Ouais, 24 et 4, 28 ans. Ce jeune homme n'a pas pensé à s'adresser au curé de la première paroisse venue. Il ne savait vraiment pas à qui s'adresser. Et remarquez que d'autres jeunes qui ont suivi le même parcours que moi, on ne pense pas du tout en sortant d'un gourou hindou, en sortant des Himalayas, à s'adresser au curé du coin. Il reste encore toujours, du moins d'une façon latente, qu'est-ce que ces braves curés peuvent bien savoir du bon Dieu? C'est pas explicite, mais je crois que ça devait habiter. On ne va pas vers cette église qui est plus au courant, il faudrait froid. Du pays, quoi. Et puis finalement, j'étais la proie idéale pour les ésotérismes de référence chrétienne. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé par un biais assez étonnant, c'est par le biais de l'occultisme. À savoir que certains personnages se référant au christianisme m'ont dit « Mais monsieur, vous avez des pouvoirs particuliers. Entre autres, vous avez le pouvoir de radiesthésie. Ce qu'on n'appelle pas un pouvoir immédiatement, vous avez le don de radiesthésie. Et il nous semble qu'au nom de votre foi dans l'Évangile et de l'appel de Jésus à se mettre au service de vos frères, il vous faut travailler dans ce domaine-là. » Bien surpris, mais converti néophyte, je me dis, mais ces gens parlent de Jésus, ils avaient effectivement de beaux discours sur l'Évangile, ils me disent qu'il me faut servir mes frères, pourquoi pas. Et me voilà pratiquant la radiesthésie, très étonné d'avoir ce don.
Est-ce que vous pouvez dire en deux mots ce que c'est que cette radiesthésie que vous pratiquez?
Alors la radiesthésie, c'est simplement faire un diagnostic médical, là c'est un contexte médical, en s'aidant d'un support qu'on appelle le pendule. On garde la main au-dessus de la main ou d'un témoin appartenant à la personne et on interroge soit à partir d'une carte, soit mentalement. On se pose par exemple la question, est-ce que le foie de la personne fonctionne bien? Et on conventionnellement, le pendule tourne à gauche. Sinon, il tourne à droite, si oui. Voilà, c'est une série de conventions, mais le pendule n'est rien d'autre qu'une sorte d'amplificateur d'une intuition d'ordre médiumnique. C'est un support matériel. Après un petit temps, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout besoin de ce support matériel. Qu'il me suffisait de regarder, d'observer la personne, ou même sans l'observer, d'avoir un contact avec la personne, pour voir, entre guillemets, immédiatement ce qui n'allait pas. À quoi les membres de ce groupement ésotérique ont dit, bien oui, vous avez le don de voyance. Très étonné, je me dis, mais d'où cela vient, tout cela? Il me dit, c'est un don que le Seigneur vous fait, mettez ça au service de vos frères. Alors les personnes avec qui j'ai contact, où le contact se faisait, donc on garde la main juste au-dessus de la main de la personne, c'était la façon d'avoir un contact avec elle pour poser un diagnostic, voilà que la personne me dit, « Oh, surtout, ne bougez pas votre main, je sens que ça me fait du bien. » Alors encore plus étonné, je me dis, « Mais qu'est-ce que c'est encore ce nouveau développement ?» Et les maîtres en question me disent, « Eh bien oui, on ne vous l'a pas dit, mais vous avez un don de guérison. » Et là aussi, il faut vous mettre au service de vos frères, toujours le même. Je le résume très vite, évidemment. Vous avez tel degré d'initiation, vous avez un don de guérison. Et nous voilà partis dans une guérison, différentes formes de guérison magnétique. Et je me souviens que je reste quand même scientifique dans l'âme. J'avais écrit des cahiers entiers d'observations que je faisais avec ce fameux, entre guillemets, don de voyance, que je devrais appeler un pouvoir plus qu'autre chose. Ce don de voyance est associé à toutes ces observations que je faisais dans le domaine de ces guérisons magnétiques à différents niveaux, etc. Ce qui m'avait amené à retrouver toutes ces doctrines ésotériques qui aujourd'hui sont jetées sur le marché, dans le vaste public, alors qu'il y a 20 ans, parce que cela date quand même de 20 ans, ce dont je vous parle, à peu près 20 ans, cela faisait partie encore du grand domaine secret, du grand domaine ésotérique.
Donc la voyance, l'ésotérisme, le pouvoir de guérison, ce sont des choses réelles, ce n'est pas uniquement des inventions de charlatans.
Je crains que non. Je crains qu'effectivement il y a des pouvoirs médiumniques qui peuvent être acquis par des techniques appropriées. Alors on peut se demander, mais comment se fait-il que je possédais ces pouvoirs? Il m'a fallu ces 15 à 20 années de réflexion, après la seconde conversion, il faut peut-être que je commence par parler de cela. Donc j'ai continué à exercer ces pouvoirs pendant 2 ans, je crois, si bien me souvenir, à peu près 2 ans, avec des schémas de guérison, etc. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux, car n'oublions pas, pendant tout ce temps de pratique occulte, j'avais une vie théologale. J'avais rencontré vraiment le Seigneur, je vivais avec lui, je vivais l'Eucharistie. Je participais à l'Eucharistie chaque jour, je prenais des temps d'adoration, et j'étais pleinement de bonne foi, je soignais mes frères au nom du Seigneur Jésus. Avec des thérapies personnelles, même des thérapies de groupe, qui donnaient des résultats assez surprenants. C'est d'ailleurs l'intensité des résultats qui me posait question. Car il ne faut pas être un modèle d'humilité pour se poser des questions sur l'origine de tel pouvoir. On me disait bien, ce sont des dons de Dieu, mais je me posais quand même la question, au nom de quoi suis-je gratifié, moi, de tels dons, sans avoir atteint un degré de sainteté particulier. Ensuite, mais surtout, ce qui m'a inquiété, c'est lorsque dans ces pratiques qui sont là, carrément, nous sommes dans l'ordre occulte là, puisque voyance avec pouvoir médiumnique associé, lorsque dans ces pratiques, je me suis vu progressivement sollicité intérieurement par des entités spirituelles. Je l'appelle des entités spirituelles, tout simplement, de caractère personnel. Puisqu'elles m'interpellaient, et elles se proposaient comme une identité, et elles se proposaient dans un dialogue. Je vivais 20 ans avant l'heure, si j'ose dire, ce qui aujourd'hui est banalisé sous le terme de channeling. Le channeling, channel veut dire canal, est la forme très contemporaine du spiritisme, et il est de bon ton aujourd'hui aux États-Unis et au Canada, autour d'une tasse de thé, de se retrouver avec un médium qui est un channel, qui invoque un esprit qui vient se présenter et qui répond qu'il n'avait plus rien à voir avec l'Évangile. Et puisque mon intention en revenant des Indes, c'était de me donner aussi radicalement à Jésus que je m'étais donné à ce gourou, je me suis dit, attention clignotant rouge. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé un jour dans une Eucharistie dans la région parisienne. Et au moment de la consécration et de l'élévation de l'hostie, à ma plus grande stupeur, j'ai entendu, je dirais, monter en moi un flot de blasphème. Alors là, j'étais évidemment dans une confusion totale. Je me rends à la sacristie auprès de ce prêtre après les célébrations. Je lui explique ce qui m'arrive. Et lui, très calmement, me dit, ça ne m'étonne pas. Je lui dis, vous en êtes bonne, vous? Il dit, non, ça ne m'étonne pas, je suis l'exorciste du diocèse. Et a commencé à ce moment-là, pour moi, là, les écailles me sont tombées des yeux au cours des séances d'exorcisme. Et donc, j'ai dû subir toute une série de prières d'exorcisme et de délivrance. Et lorsque le père Mathieu m'a revu après, il a effectivement constaté d'emblée que le Seigneur avait accordé la pleine délivrance. Mais délivrance ne signifie pas guérison. Il m'a fallu vivre un long temps de guérison intérieure. Et puis, de guérison intérieure au niveau de, existentiel, je dirais oui, mais aussi au niveau de l'intelligence. Et le Seigneur m'a permis, c'est quand même une grande grâce, de vivre un long temps de formation, puisque, ayant confirmé à ce moment-là mon appel au sacerdoce, j'ai vécu 2 ans à Avignon, puis 6 ans au séminaire d'Avignon, puis 6 ans au séminaire de Rome, puis après un temps en paroisse, mon évêque m'a envoyé faire une thèse de philosophie à Louvain avec le professeur Ladrière dont j'ai parlé, en vue d'un enseignement à l'Université catholique de Lyon, la fac de philosophie. Alors c'est...
Est-ce qu'on sort de tant d'années, 4, 6 années de pratiques non chrétiennes, comme ça, excusez-moi l'expression, mais d'un coup d'exorcisme? Ou bien est-ce qu'il faut une sorte de convalescence, de réapprendre à marcher?
Une longue convalescence. Et c'est là où j'ai dit que pour moi, ces 6, 8, 11 années de formation que j'ai pu vivre sont tout à fait essentielles, parce qu'elles ont été le temps, en même temps, de me permettre d'être un peu mise à l'écart. Pour un temps d'étude, c'est toujours une mise à l'écart. Pour me refaire humainement, dans tout ce que cela signifie, physiquement, psychiquement, et bien sûr, avant tout, spirituellement. D'enfin pouvoir, dans un contexte sain, rencontrer le Seigneur, enraciné dans une authentique vie théologale, sans tous les pièges ésotériques par où j'étais passé, approfondir vraiment cette parole de Dieu, la recevoir telle qu'elle m'est transmise par l'Église. Donc recevoir cette long cheminement de guérison intérieure au niveau du cœur, au niveau de la relation avec Jésus, mais aussi au niveau du psychisme. Laisser guérir mon intelligence. Et c'est vrai que le Seigneur m'a donné une exigence intellectuelle assez forte, et il me fallait ce temps de désert pour comprendre ce que j'avais vécu aux Indes, confronté à ce que me dit la tradition chrétienne sur Dieu, pour comprendre ce que j'ai vécu dans l'occultisme, pour faire le lien justement à la question que vous me posiez, comment se fait-il que je revenant des Indes, j'avais ces pouvoirs, pour comprendre ce lien entre mon cheminement de l'Orient et ma récupération, disons, dans les écoles ésotéro-occultes de l'Occident. Et en fait, ensuite, pour ça, c'était une réflexion un peu philosophique et théologique, et pour m'enraciner dans cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Si bien que je n'ai pas ce qui est ici de l'ordre du témoignage et de la réflexion, j'ai attendu 15 ans.
Est-ce que vous avez encore ces dons de voyance et de guérison, que vous vous refusez peut-être de les mettre en pratique, mais est-ce que vous les avez encore?
Alors, commençons par ça, ça va peut-être étendre l'atmosphère à ce propos-là. C'est qu'effectivement, ces dons, le jour où, voyant leur ambiguïté, je les ai remis sincèrement entre les mains du Seigneur, en lui disant, ils t'appartiennent, s'ils viennent de toi, tu me les gardes, s'ils ne viennent pas de toi, je te les remets. Bien, dès l'instant où je les ai sincèrement remis, je n'ai plus aucun pouvoir, plus aucun. Et j'ai pu le vérifier dans la pratique, même dans une circonstance dramatique où ma propre mère était gravement malade et mon père m'a sollicité très fermement en disant « Tu as les moyens de l'aider, tu le refuses de l'aider, qui es-tu donc ?» Et pris dans une sorte d'étau, là, j'ai essayé de reposer un diagnostic par ces voies-là et je n'ai effectivement constaté que je n'ai plus aucun pouvoir. J'emploie le mot pouvoir, qui est la traduction du sanskrit siddhi. Car effectivement, et c'est là où les deux expériences sont intéressantes à voir leur articulation, c'est que j'ai pu me rendre compte que les ésotériciens ont constaté que j'avais des pouvoirs précisément parce que je venais de l'Inde. Et que les exercices, les techniques de yoga avaient ouvert tous les chakras et m'avaient, ce faisant, mis en état de médiumnité. Car les chakras fonctionnent, disons, comme des petites pompes qui nous branchent, qui nous mettent en résonance avec un certain niveau d'énergie. Les énergies, je l'appelle énergie, puisque conventionnellement c'est ainsi que l'on parle du monde occulte. Alors je fais une petite parenthèse, puisqu'il faut quand même définir nos termes. Les énergies occultes sont cet ensemble de domaines de la nature, sont des énergies créées, mais que l'on appelle occultes, puisqu'elles échappent à tout contrôle, par les sciences empirico-formelles, classiques, disons par la physique. Ce sont des énergies d'ordre créées, mais sur lesquelles nous n'avons pas de maîtrise selon la physique, selon les méthodes classiques.
Alors pourquoi ne pourrions-nous pas essayer d'avoir un pouvoir sur elles ou de les utiliser, puisque dans les récits de la Genèse, par exemple, Dieu dit à l'homme, eh bien, vous soumettrez la création, si ça fait partie de la création et des énergies créées, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à les utiliser dans le bon sens, comme votre expérience nous le montre.
Alors, je voudrais justement répondre à cette question en deux étapes. D'abord, phénoménologiquement, disons ce qui s'est passé, c'est quand même bien cela, j'ai essayé de mettre ces pouvoirs au service de mon prochain. C'est ce que j'ai essayé de raconter. Le résultat est partiellement positif, au sens où certaines guérisons sont obtenues, mais nous avons vu à la fin du parcours que, apparemment, je ne travaille pas seul dans ce domaine des guérisons, mais que nous nous faisons aider par des entités spirituelles qui, en tout cas, ne sont pas favorables à l'évangile de Jésus-Christ. Donc il y a là, si je regarde le phénomène, je peux, par l'ouverture des chakras, je me branche sur différents niveaux d'énergie que je peux utiliser, car la médiumnité est une chose, le pouvoir en est une autre, c'est le passage de simplement la passivité devant ces énergies à l'utilisation de ces énergies occultes. C'est le passage de la médiumnité à la magie, en quelque sorte. La magie, c'est l'utilisation des pouvoirs occultes. Et puis, l'utilisation des magies donne un certain résultat, mais au terme du parcours, je constate que ce résultat n'est pas obtenu uniquement par mes forces, mais par l'aide d'une entité spirituelle qui n'est pas positive. Du coup, il me faut, et c'est bien ce que j'ai fait, j'ai essayé de creuser rétrospectivement l'expérience. Et j'ai continué à pouvoir le faire ensuite, aussi à partir de l'expérience pastorale et du témoignage de beaucoup de personnes. Il semble bien que dans ces pratiques occultes, disons, on peut obtenir un certain résultat thérapeutique. C'est-à-dire que certains symptômes peuvent disparaître. Et là encore, je pourrais citer ce qui se passe, les analyses d'une sociologue qui a étudié à Lyon même, où effectivement par occultisme, là plus spécialement par spiritisme, mais j'ai bien essayé de dire que les deux sont conjoints, par spiritisme on peut obtenir certaines formes de, entre guillemets, guérison, c'est-à-dire de soulagement de certains symptômes. Ce qui a frappé cette ethnologue, sociologue et ethnologue, c'est que les mêmes personnes reviennent quelque temps après avec d'autres symptômes, qui à nouveau sont éliminés, donc il y a un soulagement de ces symptômes. Résultat, c'est que la personne adhère d'autant plus au groupe occulte, amène ses amis dans le groupe occulte, mais ne semble pas se rendre compte que si tous les mois elle a besoin d'une nouvelle thérapie, il faudrait peut-être se poser des questions sur l'efficacité de ces fameux médecin spirituel. Donc il semble bien confirmé par plusieurs pratiques que ces guérisons sont obtenues par l'intermédiaire des esprits. Si je me réfère à Allan Kardec, celui qui est Rivail, qui est un Lyonnais d'ailleurs, ce qu'on appelle le grand prêtre du spiritisme, un des fondateurs du spiritisme, il y a un passage très intéressant dans son ouvrage sur le médium, où l'esprit lui répond que le magnétisme, ses guérisons sont évidemment obtenues avec l'aide des esprits. Question de Allan Kardec, mais les magnétiseurs qui fonctionnent sans esprit, qui présentent fonctionner à un niveau purement matériel, sont-ils eux aussi aidés par des esprits? Réponse de l'esprit, disons. Évidemment, nous n'attendons pas qu'on fasse appel à nous pour venir aider. Dès que vous êtes dans le domaine de l'occulte, vous faites implicitement appel à nous. Alors évidemment, pour Allan Kardec, ces esprits sont hyper positifs. Ce sont des esprits des morts qui évoluent. Mais pour autant qu'on puisse donner crédit au témoignage des esprits eux-mêmes, ce qui est toujours très difficile, mais dans le monde occulte, nous n'avons d'autres moyens d'accès que par des moyens occultes eux-mêmes. C'est ce qui fait un peu la difficulté, je dirais, épistémologique de l'étude du domaine occulte. Pour autant donc qu'on puisse donner crédit à ces démarches, il y a quand même une convergence de témoignages que, même si on n'en est pas très conscient ou sans faire appel implicitement à des entités personnelles de ce domaine-là, il semble bien que les effets magiques, qu'ils soient bénéfiques ou maléfiques, soient obtenus par l'aide de telles entités.
Et alors est-ce que ces pratiques de guérison, d'occultisme, pour employer un mot très, très général, peut avoir des effets sur l'entourage également, sur les enfants?
Alors sur la personne et l'entourage, il y a une certaine logique.
Et est-ce que vous pouvez donner quelques témoignages?
Oui, facilement. Il y a, donc, si je reste dans la logique de ce que je suis occupé à dire, il y a donc un esprit qui vient, entre guillemets, en aide à la personne qui pratique telle ou telle thérapie. Il y a donc une aliénation. J'emploie immédiatement le mot aliénation sur l'horizon de ce que je viens de dire, que cet esprit est difficilement un esprit qui soit positif, c'est-à-dire ce qu'on appellera un ange, lorsque j'ai vu sa réaction par rapport à l'expérience de foi chrétienne. Il me semble donc que cet esprit, je parle de cela, n'est pas un esprit qui me fait avancer au niveau spirituel. C'est un esprit qui profite de mon attention dans le domaine occulte pour capter mon attention dans ces domaines, et qui d'une certaine façon m'aliène moi personnellement, que je le veuille ou non. Je ne suis pas forcément le premier à subir les dégâts de cet esprit, car effectivement, si je suis le médium, l'esprit a tout intérêt à garder l'instrument médiumnique en bon état. Mais je pourrais citer le cas d'une famille dont le papa avait une maladie dégénérative qui exigeait des soins très réguliers avec un dosage des médicaments très précis. J'accompagnais spirituellement la fille de ce couple qui cheminait vers la consécration religieuse. Je ne l'avais pas vue pendant une interruption de l'été, pendant les 2 mois d'été, je la vois en septembre, et à ma plus grande surprise, je la vois physiquement délabrée, très pâle et sans énergie. Et tout de suite, elle s'ouvre à moi en me disant que psychologiquement ça ne va pas, qu'elle se sent dépressive. Alors nous essayons de voir, ce n'est pas un tempérament dépressif, c'est une fille qui n'a jamais vécu de dépression, qui au contraire a un tempérament très vivant. Il n'y a aucun élément qui permette de discerner une cause à une dépression psychologique. Il n'y a aucun élément qui permette de mettre le doigt sur une nuit de la foi qui pourrait engendrer de tels phénomènes. Rien ne semble justifier l'état psychologique dans lequel elle est. Rien ne semble justifier aussi une dégradation de sa vie de foi et une impuissance qu'elle avoue de demeurer dans la prière, une sorte de progressif rejet de Dieu, de révolte contre Dieu. Pas simplement une nuit de la foi, mais un sentiment de rejet qui l'angoisse. Et effectivement, une présence à l'Eucharistie avec des phénomènes d'angoisse, des phénomènes de blasphème, des choses très étonnantes qui la perturbent profondément. Nous continuons à en parler. Pour détendre l'atmosphère, je change de sujet et je lui demande des nouvelles de sa famille. Et là, elle me dit, du moins de ce côté-là, il y a quelque chose de positif. Mon papa va mieux depuis que maman a enfin réussi à doser, bien doser régulièrement les médicaments. Je dis, oui, comment elle fait? Bien, elle le fait par radiesthésie. Elle dose 3 fois par jour par radiesthésie les médicaments de papa. Immédiatement, j'ai un petit soupçon et je lui dis, mais est-ce qu'elle se limite à papa? Non, elle le fait aussi pour des gens de l'entourage, des très proches. Je lui dis, oui, et depuis qu'elle le fait, il y a de plus en plus de monde qui vient. Elle me dit, comment vous le savez? Je dis, oui, pour tout te dire, elle le fait probablement toute la journée. Eh bien oui, il dit, comment vous le savez? Et je lui dis, mais c'est parce que c'est tout simplement le processus habituel qui s'enclenche. Et elle me révèle que la date où la maman a commencé ses pratiques radiesthésiques, c'est à peu près un mois avant qu'elle ait effectivement vécu, commencé à ressentir cette détérioration intérieure et progressivement extérieure dont elle me dit ses plaintes. Je rencontre les parents, j'essaie de les éclairer sur le danger objectif qu'ils sont occupés à vivre. Ils vont consentir à arrêter la pratique. Il va y avoir un net apaisement dans la famille pendant 2 mois. Après coup, la maman, toujours pour aider le papa dans la prise de ses médicaments, va reprendre la pratique radiesthésie, et je vais le savoir par la plainte de la fille qui dit « tous les symptômes recommencent ». Je fais appel à un autre prêtre qui les accompagnait. Ensemble, nous essayons de les convaincre, que ces pratiques sont dangereuses. Et ce qui m'a frappé, c'est que nous avons eu une sorte de dialogue, de chantage, où les personnes nous suppliaient et disaient « mais ce n'est quand même pas à chaque fois que nous faisons de la radiesthésie qu'un esprit va venir s'interposer. Peut-être il y a des fois où nous pouvons le pratiquer d'une façon très, très neutre. Je dois reconnaître qu'effectivement, ce serait anti-scientifique de déclarer que chaque fois que je prends le pendule, j'ai une intervention d'un esprit. Mais je peux dire de mon expérience que dans de nombreux cas, se révèle la présence d'un esprit. Autrement dit, que faire de la radiesthésie, traverser un champ de mine. Nous n'avons aucune preuve que c'est à chaque fois, mais que le danger réel est là. Nous avons essayé de l'expliquer à cette personne. Et elle a dit, nous ne pouvons pas nous arrêter. Ce qui, moi, me semble une preuve tangible de l'aliénation que subissait une sorte de pression psychologique sur ce couple qui avait du mal à arrêter cette pratique. Qui semble bien montrer qu'il y a besoin d'une prière de délivrance pour une aliénation. Loin de moi de dire que ces personnes sont possédées, infestées, je n'emploierai pas de terme. Mais il y a une sorte de mainmise aliénante de l'esprit sur le médium, parce qu'à travers ce ministère qu'elle effectuait, elle permettait au médium d'effectivement se rendre présent à l'entourage propre et du coup de vivre une sorte de symbiose, non seulement avec le médium, mais avec l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est que cette symbiose? Je ne prétends pas savoir comment fonctionnent ces esprits, et à la limite je ne désire pas le savoir. Je constate simplement qu'ils fonctionnent, permettez-moi un mot qui est très vilain, par une sorte de vampirisme, puisque je constate un épuisement des forces physiques, un trouble psychologique, et ce qui me semble très important pour le discernement de la nature de ces esprits, un profond trouble au niveau spirituel, que j'ai constaté dans pratiquement tous les cas.
Est-ce que dans cette expérience que vous mentionnez, vous incluez également peut-être des jeux d'écoliers ou de lycéens, on fait tourner les tables, enfin...
Alors là, le domaine du spiritisme qui est tellement banalisé aujourd'hui, se rattache, me semble-t-il, immédiatement. Ce que j'essaie de dire, en quelque sorte, ce qui me semble, c'est que cette distinction entre occultisme et spiritisme est artificielle, et ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui semble bien le confirmer. C'est qu'effectivement, les occultistes reconnaissent qu'ils travaillent avec des spirites, des esprits, et que lorsqu'on rentre dans le spiritisme, très vite, on a des pouvoirs occultes. Faire tourner les tables est sans doute une première étape. Intéressant de lire ce que dit un Allan Kardec sur le fait de tourner les étapes, de faire tourner les tables. Il considère que c'est clairement une sorte de jeu entre l'esprit et la personne. Il y a un fluide qui émane de notre personne, et le fluide qui émane de l'esprit se joint au fluide de la personne pour soit soulever la table, soit agir d'une façon guérissante, soit pour donner lieu à une thérapie ou n'importe quoi. Alors, il est vrai que les jeunes aujourd'hui rentrent dans le circuit occulte souvent par le jeu de faire tourner des tables. Si effectivement ces jeunes rentrent dans une sorte de symbiose avec ces entités spirituelles, c'est là que peut commencer une aliénation qui très vite va montrer ses fruits. Là aussi je pourrais citer un grand nombre d'exemples, j'en cite un relativement récent, où après un cours en école préparatoire, école d'ingénieur, je vois deux jeunes arriver à leur visage, immédiatement je me dis, ils ont fait une bêtise. Effectivement, ils demandent à me voir en privé, ils expliquent, ils me disent, écoutez, on est allé sur la sollicitation d'un de nos amis, on est allé à une séance de spiritisme, à un groupe de spiritisme, on s'est mis autour de la table, on a invoqué un esprit, au début on n'y croyait pas fort, mais le plus fort c'est que ça a marché. C'est que ça a marché, qu'effectivement, un d'entre nous s'est mis à parler avec une voix féminine, tout à fait autre, il était dans un état second, une sorte d'état de transe, il était tout agité, et puis la table s'est mise à bouger, d'autres meubles se sont mis à bouger, et puis le gars en état de médiumnité s'est mis à parler sur chacun de nous. Alors, un des deux était croyant pratiquant, l'autre avait un fond de foi, mais n'était plus pratiquant. L'esprit s'est mis à parler à propos de diverses personnes dans l'assemblée, c'est un petit groupe, et lorsqu'il est arrivé aux croyants pratiquants, l'esprit s'est mis en colère, ce qui est encore une fois intéressant sur la nature des esprits. Et s'est mis à lui annoncer qu'il allait mourir dans l'année, qu'il était damné, bref, des tas de choses pas très réjouissantes. Le petit gars qui y était allé en crânant ne rigolait plus du tout. L'autre qui était croyant mais non pratiquant a été interpellé vivement par l'esprit de venir aux séances de spiritisme et de se convertir au spiritisme. Intéressant comme conversion. Les deux gars sont sortis, beaucoup moins fiers qu'ils y étaient rentrés, sont rentrés dans leur chambre, ils vivaient à trois en chambre, et dès le lendemain, il y a eu des manifestations étranges, assez spectaculaires quand même, dont le troisième larron qui n'avait pas participé à la séance du spiritisme a été lui-même témoin, avec des inflammations spontanées d'objets, qui ont profondément troublé ces jeunes. Le dernier épisode étant assez spectaculaire lui aussi, où un de ces jeunes avait un appareil dentaire, et le soir, en déposant son appareil dentaire, et il m'a bien affirmé qu'il n'avait aucune blessure dans la bouche, il a été pris d'un flot de sang dans la bouche. Alors, ils étaient complètement chamboulés aussi, retournés, lorsqu'ils sont venus me parler, et ça a été pour moi l'occasion, puisque je leur ai demandé à ce moment-là s'ils avaient un fond chrétien, ils ont reconnu qu'ils avaient effectivement un fond chrétien, ça a été pour eux toute l'occasion d'une démarche de conversion et de renoncement à ce genre de pratique. Et puis là, pour le coup, il me semble que le démon avait fait un peu trop fort, puisque le Seigneur s'est servi de cette rencontre pour les ramener sur un chemin de conversion et de prise au sérieux de la responsabilité que nous avons. Quand en fait, c'est ça, on joue aujourd'hui d'une façon tout à fait irresponsable avec tout ce domaine des esprits, sans se rendre compte que la participation à ce genre de séance est implicitement un consentement à rentrer dans une alliance avec ce monde des esprits dont nous ne connaissons peu ou rien, et donc nous engageons dans une forme d'alliance à travers cet état fusionnique que nous permettons avec ces esprits, état fusionnique qui conduit à une aliénation et qui a des fruits tôt ou tard, tant mieux, des fruits qui ne sont pas positifs. Dans le cas que je vous raconte, les fruits sont assez rapides pour qu'immédiatement on puisse donner à ces jeunes l'occasion de reposer dans un acte de liberté un choix clair et net. Mais le problème, c'est que souvent, ça arrive des années plus tard. Ainsi, le cas que je cite souvent, parce que pour moi, il a été encore un tournant, c'est le cas que j'ai vécu avec mon propre cousin. C'était peu après ma conversion, cette seconde conversion, lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le monde occulte, où je le rencontre et je savais qu'il pratiquait de la radiesthésie, et j'essaie de lui expliquer que probablement il s'engage sur un chemin un peu dangereux. À quoi il me répond, mais écoute, toi, c'est parce que tu es allé très loin sur ces chemins. Moi, je le fais cela sporadiquement, de temps en temps, pour ma propre famille et pour les proches, jamais pour de l'argent. Il est impossible qu'il y ait quelque chose de démoniaque, ou du moins, disons, pour ne pas employer le mot démoniaque, de négatif dans ce que je fais. Et tout en parlant, il sort son pendule et me dit, la preuve, je vais te montrer comment je fonctionne. Tu verras bien qu'il n'y a rien de malin là-dedans. Alors, il employait une méthode de radiesthésie, qui est assez proche du spiritisme, puisqu'il laisse courir le pendule sur un alphabet. Il laisse construire des paroles, des mots. Et il pose les questions classiques, puisqu'il faisait aussi la radiesthésie dans un sens thérapeutique. Et je me souviens plus ce qu'il demande, quel est l'organe qui ne fonctionne pas bien chez Jacques, par exemple. Et aux surprises, voilà que les mots qu'il écrit, lettre après lettre, donnent la phrase suivante, « Qui c'est celui-là ? » Très troublé, mon cousin dit, tiens, mais il ne répond pas à ma question. Il repose une question, et moi, intérieurement, je me dis, mais dans quel guépier je me suis encore fourré. Et il repose la question, qu'est-ce qui ne va pas organiquement chez mon cousin, et moi, intérieurement, je prie. Réponse saccadée du pendule, pour l'appeler ainsi, excusez-moi, il n'était pas poli, fous-le dehors. À ce moment-là, dans un réflexe d'autodéfense, je me suis levé, j'ai dit une prière déprécative, je ne me souviens plus laquelle, peut-être au nom de Jésus va-t'en, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, dans la pièce à côté, l'épouse de mon cousin préparait le repas, et l'épouse qui ne savait absolument pas ce que nous faisions, qui n'entendait rien de ce que nous faisions, l'épouse, dans un cri, s'effondre. Nous avons emporté l'épouse dans un état semi-comateux, nous l'emportons à l'hôpital, et ce ne sont pas les médecins, c'est une prière de délivrance qui va la faire revenir pleinement elle-même. Et ce qui me frappe le plus, c'est que le fiston était depuis 6 mois dans une sorte de problème psychologique avec une anorexie qui grandissante que les médecins ne s'expliquaient pas. La prière de délivrance sur la famille a complètement libéré l'enfant de son problème psychologique. Je cite cet exemple car il y a une objectivité forte dans l'analyse de tels cas. La part psychologique est toujours très difficile à discerner de la part objective. Or là, ce n'est pas mon cousin, qui s'appelait Jean, ce n'est pas Jean qui se trouve réagir au moment de la prière de déprécative. C'est une personne qui ne sait absolument pas ce que nous faisons, mais qui est liée familialement et liée par la pratique à ce qui se passe, à l'enjeu de la radiesthésie. Alors, il me semble qu'il y a ainsi, on pourrait multiplier ce genre d'exemples.
On peut vraiment le multiplier. Est-ce que c'est vraiment donc quelque chose de très répandu?
Alors, le phénomène du spiritisme, les pratiques sont hélas très répandues.
Parce que c'est vrai qu'on en voit dans tous les gratuits qui sont distribués ici ou là, on voit beaucoup de réclames pour la voyance, médium, spiritisme, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de très répandu.
C'est hélas très répandu jusque dans des écoles chrétiennes. Ma sœur est enseignante dans une école chrétienne et dit c'est déroutant, nos jeunes, pendant l'intercours, à la limite ce n'est plus, enfin hélas il y a encore le phénomène de la drogue, mais c'est le spiritisme qu'il faut veiller. Ils se cachent pour faire ensemble des expériences de spiritisme. J'ai eu il y a 3 semaines dans mon bureau une jeune fille qui, pour voir, pour rire, pour jouer, avait invoqué dans leur petit groupe, elles avaient invoqué différents esprits, des chanteurs défunts, etc. C'était drôle. Il fallait aller plus loin, elles avaient invoqué Satan. Bon, on peut se dire, bon, enfin, ce n'est pas Satan qui se déplace parce qu'on invoque Satan, on peut trouver beaucoup de bonnes raisons. Mais la personne était là avec une assistante sociale et avec sa maman, car depuis cette fameuse séance, elle était poussée avec des envies suicidaires qui la prenaient brutalement et la poussaient vers la fenêtre, au point que les parents et l'enfant étaient profondément déboussolés. Et comme par hasard, depuis ce moment-là, encore une fois, on peut invoquer bien des raisons psychologiques, etc. Le fait est que lorsque l'on contacte les jeunes et qu'ils sont en confiance, et là, 8 sur 10 ont pratiqué cela, on m'avait allé demander de parler dans une école, dans des écoles de catholiques de Châteauroux, c'était l'aumônerie diocésaine. Le matin, je parle, ça chahute un peu, ça va très bien, c'est bon que ça chahute, on crâne, on roule les mécaniques. Le midi, pendant le pique-nique, eh bien, je n'ai pas eu assez de temps pour répondre aux demandes personnelles où les gens me manquent l'un après l'autre individuellement. L'un même se cache dans l'embrasure d'une porte pour me dire « Surtout ne vous retournez pas, je ne veux pas qu'on voit que je vous parle. » Le discours de tous ces jeunes, c'était la même. « Voilà, j'ai fait ça, ça et ça. J'ai très peur parce que j'ai tel et tel événement qui se passe dans ma vie. Et je me demande « Mais pourquoi vous ne témoignez pas devant les autres ? Je n'ose pas, ils vont se moquer de moi. » Alors j'ai crevé l'abcès, j'ai dit « Voilà, vous avez tous peur du copain qui va se moquer de vous, mais le copain en a fait autant que vous. » Et je vous assure que l'après-midi, ça ne crânait plus. Parce que j'ai pu citer ce qu'ils m'avaient dit le midi, et j'ai pu analyser leur expérience, et les inviter à être prudents et à refaire un choix dans leur vie. À faire un choix, je ne peux pas leur imposer bien sûr un choix de Jésus-Christ, mais au moins de ne pas faire des choix spirituels qui sont implicites dans certaines attitudes, qui vont les aliéner. Alors, je voudrais quand même encore revenir sur un petit mot sur ce que j'ai dit, lorsque je dis que ces esprits, pour moi, ne sont incompatibles avec disons, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, et ne sont pas positifs. C'est une chose qu'on peut très vite me dire, mais vous dites cela, il y a des esprits bons, et il y a peut-être des esprits mauvais, première étape. Alors, à cela, je réponds, les quelques exemples que j'ai donnés se présentaient évidemment tous comme des esprits bons, puisque des esprits guérisseurs. Et encore, je me rends compte que, sans avoir le temps de citer des cas concrets, des personnes pratiquant de la magie qu'on dit blanche, c'est-à-dire invoquant des esprits en vue d'un effet bénéfique, dans une prière chrétienne, lorsqu'ils acceptent de soumettre cela au discernement du Seigneur Jésus, ce qui se révèle n'est pas du tout bénéfique. Il y a un ange de lumière dont parle saint Paul qui, à la lumière, lorsqu'on l'expose au discernement chrétien, malgré apparemment des agissements bons, dévoile un visage qui n'est pas du tout celui qu'on croyait. Alors, je renvoie, je crois que c'est la 4e règle de saint Ignace. Il faut bien que l'esprit mauvais commence par donner un élément bon pour nous conduire sur le chemin où nous ne voudrions pas aller. Vous savez, les esprits mauvais qui d'emblée proposent des expériences négatives savent à qui ils le proposent, mais comme, heureusement, la plupart des gens sont quand même de bonne foi, ils commencent par un chemin qui va dans le sens de la bienveillance envers le prochain, mais pour nous conduire un chemin où nous ne voudrions pas aller. Et je voudrais dire aussi une autre étape sur cette compatibilité, revenir un peu sur un élément de mon témoignage. Combien de personnes aujourd'hui, jusque des prêtres et des religieux, ont un discernement un peu simpliste? On dit, cela fait du bien, donc c'est bon. Ça guérit, ou cette personne guérit, Donc c'est bon, donc ça vient de Dieu.
Est-ce qu'on pourrait dire également la même chose par rapport au yoga? Je voudrais que vous disiez aussi un mot par rapport au yoga.
Oui, je peux revenir sur le yoga, mais ce n'est pas parce que le résultat est bon que c'est immédiatement de Dieu. Et je renvoie à ce que j'ai dit sur mon témoignage personnel. J'ai fait pendant 2 ans des pratiques occultes qui se sont révélées, au moment où le Seigneur a enlevé les écailles de mes yeux, comme extrêmement aliénantes. Et pourtant, je vivais une vie théologale. Ce que je voudrais insister là-dessus, c'est que nous sommes dans une religion de la liberté. Et je ne peux, qui n'est pas une religion magique. Je peux, dans mon cœur, dans la fine pointe de mon âme, avoir choisi le Seigneur Jésus, et continuer par ignorance à poser des actes contraires. Et le Seigneur ne cautionne pas ces actes contraires. Un jour, il me mettra devant la nécessité de choisir intégralement, pour lui ou contre lui. Mais je veux dire, le fait que le guérisseur dit « je prie, je vais à la messe tous les jours » n'est pas un critère de vérité de ce qu'il fait. Il est peut-être sincère, mais sincérité n'est pas vérité. Je crois que le jour où il est mis à l'objectivité de la parole de Dieu, qui, comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, la parole de Dieu dénonce toute pratique magique, toute pratique occulte, et ce qui est frappant, c'est que le catéchisme mentionne même en alinéa, entre deux tirets, même les pratiques magiques en vue de faire le bien. Donc la magie blanche, en vue de guérir, d'améliorer la santé, est comprise dans cette mise en garde contre toute pratique magique, occulte ou de spiritisme qu'énonce le catéchisme. Mais le catéchisme ne se fait que l'écho d'un nombre impressionnant de citations de l'Écriture qui mettent en cause de telles pratiques. Voilà, je crois que la bonne volonté et le résultat positif n'est pas suffisant pour justifier une pratique qui me conduit sur des chemins où je ne voudrais pas aller. Alors, le yoga...
Parce que pour le yoga, on en voit un peu partout des affiches, voire même sur des portes d'église. Il y en a même qui disent « pratiquer le yoga chrétien ». On peut dire qu'il y a une sorte presque d'envoûtement, enfin en tout cas de mode au yoga. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux dans ce yoga, même si on dit « oui, mais c'est une simple gymnastique, c'est une simple séance de relaxation ».
Les propositions du yoga sont de tous ordres, jusqu'à, comme vous dites, la relaxation, etc., jusqu'à une meilleure performabilité, etc. Je crois qu'en fait, l'engouement aujourd'hui pour le yoga est plus une recherche d'une expérience spirituelle qui ne soit pas trop onéreuse. Je parle surtout pour les chrétiens attirés par le yoga, car une personne qui va vers le yoga à partir d'un horizon de recherche spirituelle peut très bien vivre cette démarche comme moi-même je l'ai vécu. Si je vais vers l'Orient en croyant chercher Dieu dans ce divin impersonnel fusionnel, la seule raison pour laquelle je peux revenir vers l'Occident, c'est que je fais choix d'un autre horizon, je dirais, de destinée de l'homme. La vision de l'homme dans l'Occident judéo-chrétien n'est pas du tout celle de l'Orient. Mais il me semble que si je me mets à l'intérieur de la raison pour laquelle le chrétien pratique est un peu attiré, comme vous dites, jusque dans les porches de l'Église, et certains prêtres, reconnaissons-le, donnent des cours de yoga, et il y a des maisons religieuses qui proposent des séminaires de yoga. Il me semble qu'il y a effectivement un danger, c'est de confondre une technique de relaxation avec une méthode de prière. Il me semble parler de yoga chrétien est une contradiction dans les termes. Et je sais que je risque de faire crier plus d'un dans ce que je dis. Le yoga est une technique efficace qui appartient à une tradition religieuse bien précise, l'hindouisme. C'est une technique efficace qui conduit à une expérience de fusion avec les énergies cosmiques, le tout cosmique, considéré comme divin. Une expérience de fusion avec des énergies naturelles créées, qui ne conduit donc pas vers une rencontre avec le Dieu personnel, avec le Créateur qui se révèle en Jésus-Christ comme le Tu qui m'appelle à une relation d'amour, à une communion d'amour dans l'Esprit-Saint. Le yoga est une technique efficace pour me fondre dans le tout impersonnel, pour régresser, j'emploie l'expression en son sens psychologique, régresser en amont de toute mes différenciations individuelles, de tout ce qui fait que je suis un être unique, une personne unique, même de tout ce qui fait que je suis un individu rationnel, posant des jugements, pour rejoindre l'expérience du pur acte d'être qui est commun à l'homme, à l'animal, à la plante et à tout objet créé. Donc c'est une démarche régressive vers le sein de la mère nature, la fusion avec le grand tout, considéré comme étant divin. Alors, je ne vois pas comment une telle démarche, une telle technique peut être intégrée dans un projet spirituel chrétien, dans une démarche chrétienne, ou peut être posée comme introduction à une prière chrétienne, puisque la prière chrétienne est toujours une mise en état d'accueil de la visite du tout autre. Il y a des méthodes chrétiennes de prière dans lesquelles j'oriente toutes mes facultés vers celui qui doit venir, vers Jésus, et la prière étant un dialogue avec le Seigneur dans une altérité, bien sûr. Alors je ne vois pas comment on peut introduire une prière relationnelle, dialogale, par une démarche fusionnelle. Alors que dans la prière, toute notre attention, nous sommes juste dans un état de vigilance intérieure, je dirais, ramassé dans la fine pointe de l'âme, là où je suis le plus intensément dans mon jeu personnel, tout ouvert à la rencontre de l'autre, alors que le yoga veut justement conduire au dépassement de ce qu'il considère comme une illusion, à savoir le sujet personnel. C'est pour ça qu'il me semble que cet engouement en milieu chrétien des techniques zen et des techniques du yoga, etc., je crois pouvoir y décerner une tentation de mettre la main sur la rencontre avec Dieu, de mettre la main sur l'expérience spirituelle. Il est évident qu'il y a une pauvreté dans la prière chrétienne. Je peux me disposer à accueillir celui qui vient me visiter, je ne peux pas la mettre la main dessus. Je ne peux pas le forcer à venir me donner l'expérience de la consolation. Et s'il ne me visite pas sensiblement, je sais dans la foi qu'il est là, mais bien sûr, la rencontre qui me bouleverse, qui me touche, qui me fait jouir de cette présence, je ne peux pas me la donner à chaque fois. Alors la tentation du chrétien peut bien être de contourner les épreuves de la nuit de la foi et de pouvoir se donner une expérience de sérénité intérieure qui risque d'être confondue avec la paix intérieure que le Seigneur peut donner dans la prière. Je crois que le piège, il est là, de confondre une sérénité psychique, une sorte de suffisance dans cette expérience de ma propre nature, qui s'étend jusqu'aux dimensions même du cosmos, dans le cas d'une expérience très profonde, de confondre cette sérénité solipsiste, qui est une expérience psychique du moi, qui prend des dimensions de plus en plus grandes, avec cette pauvreté de la rencontre du je avec le tu divin, et de cette attitude d'humilité dans l'attente de la visite du tout autre. Alors je crois qu'il y a des choix, des options fondamentales qui sont derrière tout cela, sur la destinée de l'homme. Est-ce que Dieu appelle l'homme à une rencontre, à une communion transformante, dans laquelle Dieu se communique à l'homme tout en respectant sa nature, dans une communion d'amour, où le « je divin » se donne à participer au « tu humain » tout en respectant la distinction des personnes. Il me semble que ce qui nous est proposé dans l'Évangile, c'est une histoire d'amour. Or, pour aimer, il faut être deux. Il ne peut pas y avoir une relation d'amour sans interpersonnalité. L'amour est la perfection d'une relation entre deux sujets personnels. Or, c'est dans une relation de ce type-là que Dieu se révèle, que Dieu se communique. D'ailleurs, c'est bien ce que nous dit la théologie trinitaire, que Dieu est amour, il est trinité de personnes, il est relation subsistante. Et c'est à cela une participation, à cette relation trinitaire que Dieu nous invite. Donc la condition même de possibilité pour vivre cette transfiguration dans l'Esprit Saint, c'est d'accepter d'être un je créé sous le regard du tu incréé. Alors que la démarche de l'Orient est au contraire une régression en amont de cette dimension personnelle, pour se contenter d'une béatitude naturelle qui est de l'ordre de la nature et non pas de l'ordre de la grâce, non pas de l'ordre du Créateur.